Vendredi 23 décembre. Chapitre 13. Madrid. Le diable me suit jour et nuit parce qu'il redoute d'être seul. Francis Picabia. 1. Madrid, 8 heures. Madeleine fut réveillée par l'alarme programmée sur son téléphone. Elle se fit violence pour se mettre debout. Nuit de merde. Une de plus. Impossible de fermer l'œil jusqu'à 5 heures du matin, avant qu'une lame de fond la fasse sombrer dans des profondeurs abyssales, d'où il était brutal et difficile d'émerger. Elle tira les rideaux pour constater avec soulagement que l'orage avait cessé. Elle sortit prendre un grand bol d'air sur le balcon. Le ciel restait grisâtre, mais à la lumière du jour, Chueca avait retrouvé une certaine gaieté. Elle se frotta les yeux, écrasa un bâillement. Elle aurait donné cher pour un double expresso, mais la ponction folliculaire nécessitait d'être à jeun. Sous la douche, elle se lava longuement avec le savon antiseptique en essayant de penser à tout sauf à l'anesthésie. Elle s'habilla simplement, collant opaque, chemise en jean boyfriend, robe pull en laine, boots vernis. Les consignes étaient claires. Pas de parfum, pas de maquillage et une ponctualité impérative au rendez-vous fixé par la clinique. En descendant l'escalier vers le hall de l'hôtel, elle posa un casque sur ses oreilles et programma une playlist appropriée. Mélodie hongroise de Schubert, concerto pour flûte et harpe de Mozart, sonate pour piano numéro 28 de Beethoven. Une bande-son apaisante et entraînante qui lui donnait l'impression d'être légère lorsqu'elle se déplaçait à pied. La clinique n'était pas loin de l'hôtel et le trajet était balisé. Rejoindre la place Alonso Martinez, parcourir un bon kilomètre sur la calle Fernando El Santo, puis traverser les jardinets de la Castellana. La clinique de fertilité, un petit établissement moderne protégé par des panneaux de verre sablé, se trouvait dans une rue perpendiculaire. En chemin, Madeleine avait envoyé un SMS à Luisa pour la prévenir de son arrivée imminente. La jeune infirmière vint à sa rencontre dans le hall. Effusion, échange de nouvelles et de propos rassurants. Luisa la présenta à l'anesthésiste, puis au médecin, qui prit le temps de lui expliquer une nouvelle fois la procédure délicate de l'extraction des ovocytes. Elle s'effectuait à l'aide d'une très longue seringue que l'on introduisait jusqu'aux ovaires afin de pouvoir piquer dans les ovules pour y prélever les ovocytes. « Mais c'est totalement indolore, » affirma-t-il. « Vous serez endormi tout le temps. » À moitié rassurée, Madeleine se laissa conduire dans une pièce équipée d'un lit médicalisé à roulettes par laquelle les patients transitaient avant l'opération. Alors que l'infirmière s'éclipsait, Madeleine rangea son sac et son téléphone dans le petit coffre à code prévu à cet effet. Puis elle se déshabilla et enfila la tenue de bloc réglementaire. Blouse, charlotte, chaussons. Nue sous la chasuble de papier, elle se sentit soudain vulnérable et son inquiétude monta encore d'un cran. Qu'on en finisse! Enfin, la porte s'ouvrit, mais le visage qui apparut dans l'embrasure n'était pas celui de Luisa, ni d'un médecin. C'était celui de ce diable de Gaspard Coutances. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Comment avez-vous réussi à entrer? Il répondit en espagnol,
Porque tengo buena cara. Y he dicho que yo era su marido.
Parce que j'ai une bonne tête et parce que j'ai prétendu que j'étais votre mari.
Je croyais que vous ne saviez pas mentir.
J'ai beaucoup appris à votre contact.
Dégagez tout de suite,
dit-elle en s'asseyant sur la couchette.
Ou bien c'est moi qui vous mets dehors. Calmez-vous, j'ai du nouveau. Et c'est pour vous en parler que j'ai sauté dans le premier avion ce matin.
Du nouveau? Sur quoi?
Vous savez très bien. Foutez le camp!
Comme s'il n'avait rien entendu, il prit le fauteuil à côté d'elle, débarrassa un plateau sur roulette de ses bouteilles d'eau et s'en servit comme d'un bureau pour poser ses affaires.
« Vous vous souvenez de Stockhausen ?» commença-t-il.
« Non, barrez-vous! Je ne veux pas parler avec vous. En plus, vous en pestez la lavande. Et qu'est-ce que vous avez fait de vos lunettes ?»«
On s'en fout. Stockhausen, c'est le nom du prétendu cardiologue américain de Schön, celui dont on trouve mention sur l'agenda que vous a remis Bénédicte. »
Il fallut à Madeleine quelques secondes pour reprendre le fil.
« Le médecin avec qui Schön avait rendez-vous le jour de sa mort. »«
C'est ça !» confirma Gaspard. « Eh bien, ce type n'existe pas, ou plutôt, il n'y a pas de cardiologue à New York du nom de Stockhausen. »
Pour appuyer ses dires, il sortit de son sac à dos une liasse de feuilles imprimées correspondant à des requêtes sur le site américain des pages jaunes.
« J'ai élargi les recherches à tout l'État. Rien.
Médicalement, d'ailleurs, ça ne tient pas. Lorenz était soigné à l'hôpital Bichat par l'une des meilleures équipes de cardiologie d'Europe.
Quel intérêt aurait-il eu à consulter un médecin new-yorkais ?
Et vous, quel intérêt avez-vous à venir me harceler jusqu'ici ? »
Il leva la main en signe d'apaisement.
« Écoute-moi, s'il te plaît, Madeline.
On se tutoie maintenant. »
J'ai fouillé la maison de fond en comble. Dans le bureau de Sean, j'ai trouvé des dizaines d'articles qu'il avait imprimés. La plupart étaient des coupures de presse concernant l'enquête sur la mort de son fils. Mais, parmi les articles, il y avait aussi celui-ci.
Il lui tendit plusieurs feuilles agrafées. C'était un long dossier que le New York Times Magazine avait consacré à des cold cases célèbres. La mort de Natalie Wood, les 5 de Central Park, l'affaire Chandra Levy, celle des séquestrés de Cleveland, etc. Madeline se rendit à la page marquée d'un post-it pour y découvrir une photo d'elle-même. Elle se frotta les paupières. Elle avait presque oublié cet article consacré à l'affaire Alice Dixon, la gamine qu'elle avait retrouvée dans des circonstances incroyables 3 ans après sa disparition. Son enquête la plus difficile, la plus douloureuse, celle qui avait failli l'achever, mais aussi celle qui avait connu l'épilogue le plus satisfaisant, un des moments heureux de sa vie, qui paraissait terriblement loin aujourd'hui.
Lorenz avait cet article chez lui ?
Comme tu le vois, il avait même surligné certains passages.
Elle lut en silence des bouts de phrases mises en évidence au stabilo. C'était, sans compter sur Madeline Green, une flic opiniâtre de la crime de Manchester, ne lâche jamais le morceau, dont les efforts finiront par payer. La jeune Anglaise travaille aujourd'hui entre l'Upper East Side et Harlem, dans les bureaux du NYPD Cold Case Squad, situé près de l'hôpital Mount Sinai. La présence de cet article chez Lorenz étonnait Madeline, mais elle le rendit à Gaspard sans en dire un mot.
« C'est tout ce que ça te fait ? À quoi vous vous attendiez ? Mais enfin, c'est évident. Lorenz n'était pas à New York pour voir un médecin. Il était à Manhattan pour te voir, toi !»
Elle s'agaça. « Juste parce qu'il avait chez lui un vieil article sur moi. Vous grillez les étapes, Coutances. Écoutez, ça suffit, j'aimerais me concentrer sur ma vie privée, là !»
Mais Gaspard ne voulait pas en démordre. Il déplia sur la tablette le plan de Manhattan qu'il avait annoté la veille et pointa une croix avec son stylo.
« Sean Lorenz est mort ici, en pleine rue, au croisement de la 103e et de Madison. » « Et après ? Où étaient les bureaux dans lesquels tu travaillais à l'époque ?»
Elle fixa la carte sans répondre.
« Ici ! Pointa-t-il. Un pâté de maison plus loin. Ça ne peut pas être un hasard. »
Les yeux plissés, le regard concentré sur la carte, Madeline resta silencieuse. Coutances abattit sa dernière carte alors qu'un infirmier entrait dans la pièce.
« Mademoiselle Green ?
Voici la dernière facture téléphonique de Sean, » affirma Gaspard sans paraître remarquer sa présence, en agitant 2 feuilles agrafées ensemble. « On y trouve le relevé détaillé des appels de Lorenz. Tu veux connaître le dernier numéro qu'il a appelé avant de quitter la France ?»«
Mademoiselle Green, nous pouvons y aller, »
insista l'infirmier en relevant les côtés du lit à roulettes. Madeline acquiesça en affectant d'ignorer Coutances.
« C'était le 212-452-06-60. Ça ne te dit rien, ce numéro, Madeline ?»«
Je vais te rafraîchir la mémoire, »
cria-t-il alors que l'infirmier poussait le lit hors de la chambre.
Il s'agit du numéro du NYPD Cold Case Squad. C'est le bureau dans lequel tu travaillais à l'époque.
La jeune femme avait déjà quitté la pièce, mais Gaspard continua.
Que tu le veuilles ou non, 1 heure avant sa mort, Sean était à New York pour te révéler quelque chose. À toi ! À toi !
2. L'aiguille pénétra dans la veine de Madeline, libérant le liquide anesthésiant. Allongée sur la table d'intervention, la jeune femme eut brièvement l'impression d'être envahie par une onde glacée. Puis la sensation désagréable se dissipa. Ses paupières s'alourdirent. La voix du médecin se brouilla. Elle prit une longue inspiration et accepta de se laisser partir. Juste avant de sombrer, elle crut apercevoir la figure d'un homme. Grave, les traits tirés, les yeux fatigués. Le visage de Sean Lawrence. Son regard fiévreux semblait l'implorer. Aide-moi.
3.
11h. Le bar à tapas venait à peine d'ouvrir ses portes. Gaspard s'installa au comptoir, posa son sac sur le tabouret à côté de lui et commanda un cappuccino. Premier impératif, prendre 2 comprimés de Prontalgine pour apaiser les douleurs qui torturaient ses doigts et ses mains. Deuxième initiative, envoyer un SMS à Madeleine pour lui demander de le rejoindre lorsqu'elle en aurait terminé.
Votre café, monsieur ?
Merci.
Le patron du bar n'avait rien du gringalet. C'était un bear au crâne rasé et à la barbe fournie. Son ventre de buveur de bière était moulé dans un t-shirt multicolore reproduisant l'affiche « D'attache-moi », un vieil Almodovar avec Antonio Banderas et Victoria Abril. Tout un programme.
« Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?»«
En quoi puis-je vous être utile ?» demanda le bear.
Un peu gêné, Gaspard sortit son téléphone et expliqua qu'il n'était pas familier des nouvelles technologies.
« Je n'arrive plus à me connecter à Internet depuis que je suis en Espagne. »
L'ours gratta la touffe de poils sous son t-shirt et fit une réponse qui comprenait les mots « forfait »,« opérateur »,« abonnement »,« données cellulaires » à l'étranger. Gaspard acquiesça sans rien comprendre, mais le bear était sympa. Il perçut son trouble et lui proposa de connecter lui-même son appareil au Wi-Fi de l'établissement. Soulagé, Gaspard lui tendit son cellulaire qu'il récupéra 30 secondes plus tard. Il étala ensuite sur le comptoir son cahier et sa documentation, puis relut l'intégralité des notes qu'il avait prises le matin dans l'avion. D'après l'encadré de l'article de Art in America, Adriano Sotomayor était affecté au 25th Precinct, le commissariat du nord de Harlem. Gaspard en chercha le numéro sur Google. Coup d'œil à sa montre, 5h du matin à New York. Un peu tôt pour appeler. D'un autre côté, un commissariat était ouvert 24h sur 24. Il tenta sa chance, endura l'interminable blabla propre à la plupart des plateformes téléphoniques, avant de tomber sur une opératrice qui chercha à l'expédier en lui demandant de rappeler lors des heures d'ouverture au public. Gaspard insista tellement qu'elle le renvoya sur un autre poste.
« Je voudrais savoir si l'officier Sotomayor travaille toujours ici ?» demanda-t-il à son interlocuteur.
Nouvelle fin de non-recevoir énoncée sur le ton d'un maître d'école grondant un enfant.
« Ce n'est pas le genre d'information que nous donnons par téléphone. »
Gaspard inventa une histoire, expliquant qu'il vivait en Europe, qu'il était de passage à New York pour quelques jours seulement et qu'il voulait savoir s'il pouvait passer saluer l'officier Sotomayor qu'il avait connu à l'école et...
« C'est un commissariat ici, monsieur, pas l'amicale des anciens de la Bradley School. »
« J'entends bien, mais... »
Gaspard lâcha un juron en constatant qu'on venait de lui raccrocher au nez, mais rappela aussi sec. Même plateforme vocale, même standardiste, même palabre pour parler à son supérieur. Cette fois, le type manqua d'abord de l'insulter, mais Gaspard n'entra pas dans son jeu. Comme il avait laissé son nom et son adresse, on le menaça d'engager des poursuites s'il continuait à monopoliser la ligne. Puis, de guerre lasse, pour se débarrasser de lui, le type de garde finit par lui balancer qu'effectivement l'officier Sotomayor travaillait au 25th Precinct et qu'il était bien de service cette semaine. Gaspard raccrocha avec le sourire aux lèvres. Pour fêter cette petite victoire, il commanda un autre cappuccino.
4.
Lorsque Madeleine ouvrit les yeux, une demi-heure s'était écoulée. Pourtant, elle avait l'impression d'avoir dormi un siècle.
« C'est déjà fini !» annonça une voix.
Elle émergea doucement. Autour d'elle, les couleurs se précisaient, les formes gagnaient en acuité, les visages devenaient moins flous.
« Tout va très bien !» assura Louisa.
Le médecin était déjà parti, mais le visage bienveillant de l'infirmière lui souriait.
« Nous avons pu prélever presque 18 ovocytes !»
assura-t-elle en lui essuyant le front.
« La suite, c'est quoi ?»
demanda Madeleine en essayant de se redresser.
« Restez couchée !» réclama Louisa.
Avec un collègue, elle poussa le lit sur roulette pour quitter le bloc opératoire et conduire sa patiente dans la chambre de repos.
« La suite, vous la connaissez. Nous allons trier les ovocytes et inséminer les plus matures. Et dans 3 jours, nous vous transférerons 2 préembryons. En attendant, Vous allez sagement rester allongé ici avec nous jusqu'à midi.
Et ensuite ?
En attendant le transfert, vous resterez tranquillement à votre hôtel avec un bon bouquin ou la dernière saison de Game of Thrones. Mais vous laissez tomber les paquets de chips du minibar, compris ?
C'est-à-dire ?
Vous y allez mollo sur la nourriture. Pas de sel, pas trop de gras. Bref, vous oubliez toutes les choses appétissantes. Mais surtout, vous vous reposez. Madeline soupira comme une ado. Louisa la ramena dans la chambre où elle avait laissé ses affaires tout à l'heure.
« J'ai très mal !»
se plaignit-elle en désignant son ventre. Compatissante, Louisa grimaça.
« Je sais, ma belle, c'est normal. Mais le tramadol va faire effet d'un instant à l'autre. Je peux me rhabiller ?»«
Bien sûr. Vous vous rappelez le code du coffre ?» L'infirmière lui apporta ses vêtements, son sac et son téléphone, qu'elle posa sur une chaise à côté du lit. Alors que Madeline retirait sa charlotte et sa chemise de bloc, Louisa lui recommanda de nouveau de se reposer. « Je vous apporterai votre collation dans un moment. En attendant, dormez !» Quand la jeune Espagnole revint, une demi-heure plus tard, les bras chargés d'un plateau repas, sa patiente avait disparu.